Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Comment rendre effective la décentralisation en République démocratique du Congo? On en parle dans la première partie de cette émission avec Monsieur Lelo Perro, secrétaire général à la décentralisation. Nous aurons également Monsieur Willy Mubobo, député honoraire et président de l'ONGD Écologie. Plus, nous avons en ligne Monsieur Lelo Perro. Bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. Alors, dans la deuxième partie de ces programmes, nous allons parler de comment atténuer les effets du Covid sur l'éducation des filles. Eh bien, nous aurons plusieurs intervenants dans cette émission qui vont nous en parler des questions et préoccupations. N'attendez pas les dernières minutes. Appelez déjà au 081 890 63 94. Le standard est déjà ouvert. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Polydor Bansunga est à la mise en onde. Tati Mapuku assure la réalisation de cette émission que coordonne Marcel Ngomoumbalakeba. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi lance une nouvelle radio pour les enfants sur la fréquence 103.2 FM. Okapi Enfants, un projet de l'UNICEF en partenariat avec la MONUSCO pour être en contact permanent avec les enfants. Au menu, santé, environnement, éducation, protection de l'enfant et bien d'autres thèmes sur la vie quotidienne. Okapi Enfants, une radio pour les enfants avec les enfants et les parents sur la 103.2 FM. Okapi Enfants, un espace d'expression et d'épanouissement pour nos enfants.
Et oui, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore, fidèles auditeurs, pour vous servir. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le premier sujet va porter sur la décentralisation. Comment rendre effective la décentralisation en République démocratique du Congo? Eh bien, le gouvernement congolais a instauré depuis 2007 la décentralisation comme mode de gestion de l'État. C'est un mode d'organisation administrative qui confère des pouvoirs, des décisions à des organisations locaux autonomes distincts de ceux de l'État qu'on appelle les entités territoriales décentralisées. C'est comme les villes, les communes, les secteurs et chefferies. Cependant, la décentralisation a du mal à décoller depuis son lancement. Quels sont les facteurs qui freinent son bon fonctionnement? En quoi peut-elle développer la RDC? Quelles sont les solutions envisagées pour la rendre effective? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Nous sommes en direct, composez le 081-890-63-94, 081-890-63-94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. En ligne, Monsieur Lelo Perro, il est secrétaire général à la décentralisation. Monsieur Lelo, encore une fois, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien qui s'intéresse aujourd'hui à la décentralisation. D'abord, pouvez-vous nous aider à comprendre c'est quoi la décentralisation?
Eh bien, merci beaucoup, messieurs les journalistes, de l'invitation que vous m'avez adressée. et de m'associer à votre émission. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de porter une petite correction sur mon nom.
Oui.
Je m'appelle Lélé Perrault Guillaume.
D'accord.
Et non Lélo.
D'accord. C'est noté, monsieur Lélé.
Bien, merci. Alors, vous posez la question de savoir ce que l'on peut entendre par la décentralisation. Tout de suite, je peux vous dire que la décentralisation, c'est un concept qui peut se définir de plusieurs manières selon les contextes politiques, sociaux dans lesquels on se trouve. Alors, mais de manière générale, on peut retenir qu'il y a des principes qui nous permettent quand même d'appréhender ces concepts. Il y a le principe des transferts de compétences, il y a le principe des personnalités juridiques, il y a les principes de participation citoyenne, et il y a le principe de redevabilité, il y a le principe de subsidiarité, ainsi de suite. Donc, de manière générale, on peut dire que la décentralisation, c'est ce système qui consiste en ce que l'État transfère ses responsabilités, ses compétences aux entités territoriales que nous appelons des entités territoriales décentralisées. Donc, à un moment donné, l'État s'est défait de certaines responsabilités, de certaines charges pour les confier justement aux entités de la base. Donc, c'est ça ce qu'on peut retenir d'une manière générale.
Mmh. Voilà, et certains appellent cela la gouvernance des proximités.
Voilà, donc dans la mesure où la décentralisation veut que l'administration soit rapprochée des administrés, n'est-ce pas? Donc, à la base, c'est que les entités de la base jouissent de la gestion administrative de proximité.
Voilà. Alors, c'est depuis 2007 que le gouvernement a opté pour ce mode de gestion de l'État. Et qu'est-ce qui avait motivé bien entendu, c'est pour rapprocher l'administration des administrés, mais quelles sont les autres raisons qui avaient motivé le gouvernement congolais à opter pour la décentralisation?
Bon, il faut d'abord préciser le fait que la décentralisation, c'est une option constitutionnelle. Ce n'est pas en 2007, mais c'est en 2006, avec la constitution du 18 février 2006, que la décentralisation a été définitivement définie comme option de gestion de l'État. Donc en 2007, c'est le premier forum national sur la décentralisation qui avait mis en présence les différents acteurs de la décentralisation, entendez les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Et à l'issue de ce forum, il y a eu des recommandations parmi lesquelles il fallait mettre en place une stratégie. C'est ainsi qu'en 2009, l'État congolais s'est doté d'une stratégie pour la mise en œuvre de cette décentralisation-là.
Bien. Alors, depuis la mise en œuvre de cette décentralisation, quel état des lieux vous faites de ce mode de gestion?
Bon, la décentralisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mode de gestion, c'est tout un processus. C'est tout un processus, c'est-à-dire qu'il a un caractère diachronique. Donc, ça veut dire que ce processus, lorsque nous faisons son état des lieux, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, il y a eu une volonté politique affichée de pouvoir décentraliser le pays. Alors, dans sa mise en œuvre, on peut déjà retenir qu'il y a eu quand même des acquis que nous appelons des avancées sur le plan légal. Il y a eu un arsenal juridique qui a été mis en place. Donc, vous avez un certain nombre de lois qui réglemente effectivement la mise en œuvre de la décentralisation. Et en plus de ça, il y a eu comme acquis, disons, le cadre institutionnel. Donc, il y a des structures qui ont été mises en place pour pouvoir justement mener ce processus-là.
D'accord. Donc, un instant, monsieur Lélé, on va accueillir un auditeur. Il s'agit de Serge Tshibangu depuis Likasi. Nous sommes en direct. Vous voulez participer à cette émission? Le standard est ouvert. Composez le 081 890 63 94. Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité.
Vous êtes à Likasi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la décentralisation?
Oui, je me réunis, je suis présentement dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga, et je ne suis plus à Likasi. Alors, sur à ce qui concerne la décentralisation a été faite d'une manière précoce, malgré qu'elle est consacrée dans la Constitution. J'ai eu la chance de me promener après la décentralisation dans le Grand Katanga, le Grand Kasaï, le Grand Bandundu. J'ai trouvé des énormes difficultés dans tout le secteur, les routes, l'éducation et l'insertion dans les services de l'État de plusieurs personnes incompétentes au péage dans plusieurs services de l'État. Seule la province du Lualaba est sur le rail de développement. Les nouveaux dirigeants de nouvelles provinces veulent au moins détourner, s'enrichir, avoir de grosses sommes et de construire. Alors, moi, je demande au gouvernement de nommer les informateurs auprès du gouverneur, car c'est ce qui peut aussi permettre aussi à de nouvelles provinces d'avancer.
Oui, Serge, donc les difficultés que vous avez rencontrées, vous dites que c'est d'abord, il y a des personnes incompétentes et puis vous déplorez les détournements des deniers publics.
Tout à fait normal, parce que j'ai eu la chance de visiter, lorsque je visite comme ça, je m'intéresse dans plusieurs services de l'État. Vous allez vous rendre compte que les services se déroulent que dans des détournements. On peut dépenser l'argent de l'État sans facture et c'est l'établissement qui fabrique des factures sur place. Ce sont des histoires vraiment bizarres et insupportable de ce qui se passe dans des provinces. C'est pourquoi je demandais au président de la République de reprendre les conférences des gouverneurs le plus tôt vite possible, que cela aussi pourra mettre fin au freinage des bons fonctionnements de la décentralisation.
Bien, merci Serge Tshibangu de Kananga, il n'est plus à Likasi. Patrick Makola est à Bandunduville. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à l'invité et puis bonjour à Radio Capi.
Patrick, quelle est votre préoccupation par rapport à la décentralisation?
Je voulais d'abord me présenter, je suis monsieur Patrick Ngambo Makola, je suis assistant à l'université catholique de Grand-Bandundu à Bandunduville.
Oui.
Ma contribution tant à ce qui concerne la décentralisation, moi je pense que d'abord, au primo, la décentralisation c'est une question bien fondée pour permettre, n'est-ce pas, le panachement des niveaux de provinces, des territoires, de chefferies et puis des villages. Mais en fait, qui concerne notre pays, la RDC, cette question a été vice-versée pour des raisons politiques. Et ce qui n'a pas permis plutôt le panachement des entités territoriales décentralisées. Donc, je suis dans la province du Kwilu. Si vous sillonnez ma province, notamment dans la ville de Bandundu et puis dans les villages qui sont proches de la ville, vous allez voir que rien ne marche. Ceux qui ont été choisis pour gérer les entités là, ce sont des personnes qui n'arrivent même pas à donner le maire d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que cette question n'a pas été prise en compte à ce qui concerne la sensibilisation de la population, la formation de ceux qui vont avoir la responsabilité de gérer.
C'est maintenant. Oui, Patrick, généralement, ces ETD se plaignent toujours, surtout les provinces par rapport aux rétrocessions. On mobilise les recettes, on envoie à Kinshasa, et maintenant, Kinshasa a du mal à retourner les fonds nécessaires pour permettre à chaque entité de se développer, chaque province.
Mais ce que je viens de dire d'ailleurs tantôt là, je dis que cette question n'a pas été bien prise en compte. Et raison pour laquelle nous voyons que des choses ne marchent pas bien. Parce que cette question voulait vraiment qu'on puisse commencer par la sensibilisation. la sensibilisation de la population. Pourquoi? C'est parce que la population sera la première bénéficiaire de ces derniers. Alors, la formation de ceux qui pourront peut-être avoir la responsabilité de gérer cela devait aussi passer justement pour donner à ces gens-là, n'est-ce pas, la vision de bien manager cela. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui rien ne marche. Donc, vous allez voir peut-être aujourd'hui les gens qui sont comme les dirigeants ici. Bon, ils sont là parce qu'ils sont des petits frères de cousins de tel ou tel dirigeant. Donc, voilà un peu ma contribution par rapport à ça.
Merci, Patrick de Bandonouville. Al de Dieu, Wawinde, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, merci. Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la décentralisation?
Par rapport à la décentralisation, je trouve deux problèmes majeurs.
Lesquels?
Je commence d'abord par que la décentralisation n'a pas été préparée. Et vous allez remarquer que dans les différentes entités, il manque même des infrastructures pour que leur bureau abrite. Alors, c'est ça aussi qui pose les vrais problèmes de la décentralisation. Et le deuxième problème, donc, comme j'ai soulevé, c'est l'ère d'autonomie sont menacées. Vous allez remarquer que c'est Kinshasa qui ordonne, qui gère tous les jours. Comment d'abord sont nommés nos maires de la ville? Nous ne savons pas, ils viennent d'où, et brusquement, partout, il y a des maires de la ville, il y a ici, nous ne savons pas, même pas des organes qui les contrôlent. Qui les contrôle? C'est ça aussi le problème. Qui les contrôle? C'est Kinshasa. Alors, on ne sait pas, c'est une centralisation qui continue ou c'est une décentralisation sur les plans pratiques.
Bien, merci Al de Dieu. Christian Mafuta de Kinshasa, bonjour.
Moi, je voulais dire ceci. Le problème de la décentralisation n'est qu'au niveau central. Vous savez, aujourd'hui, le Congo, sur le plan, la forme de l'État, nous sommes un État unitaire, décentralisé. Mais c'est sur le papier, le document nous prouve ça, mais dans l'application, ça pose un sérieux problème. Ça pose vraiment un sérieux problème. On ne comprend pas c'est quoi l'autonomie, c'est quoi la libre administration, c'est quoi la personnalité juridique. Aujourd'hui, vraiment, ça pose un problème, un sérieux problème. Vous savez, il y a des entités telles que des communes, des villes. Le maire de ville et des bourgmestres doivent être votés. Mais aujourd'hui, on nomme, la direction centrale nomme. Et quand on nomme, on dépend de quelqu'un. Vous savez, c'est pas sérieux.
Merci, Christian Mafuta de Kinshasa et Ilia Kimbanseke. Monsieur Lele, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Laissez-moi parachever la première idée quand j'ai parlé des acquis de notre décentralisation. J'ai parlé du cadre légal, j'ai parlé du cadre institutionnel. Il faut ajouter à cela que nous avons quand même organisé les élections provinciales. Il y a eu l'installation des institutions provinciales, dont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Donc, disons que c'est quand même parmi les acquis de notre processus. Alors, en ce qui concerne toutes les préoccupations qui viennent d'être soulevées tout à l'heure, oui, ça me réjouit du fait que la décentralisation, comme nous l'avons dit, c'est la responsabilisation des entités de base, donc la participation citoyenne. Donc toutes ces préoccupations vont dans ce sens-là que ce sont les citoyens qui observent leur vie, leur mode de vie, comment leurs entités sont gérées. Et cela est vrai dans la mesure où je vous ai parlé tout à l'heure du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, qui est un document fédérateur de tous les acteurs, dans lequel vous trouvez les axes qui devaient permettre justement à réaliser ce processus-là. Donc il y a parmi ces axes-là, il y a l'axe, le tout premier, c'est l'appropriation effective de la décentralisation. Donc je suis d'accord avec tous les citoyens qui viennent d'intervenir pour dire qu'il y a un grand travail qui devait se faire déjà en amont, c'est-à-dire la sensibilisation de la population
et puis la vulgarisation des textes même qui soutiennent le processus. Et lorsque l'on parle de la mauvaise gouvernance hein, dans les entités territoriales qui est caractérisée par la mauvaise gestion, par la nomination qui n'est pas objective des animateurs, c'est vrai, il y a un axe qui parle, c'est le troisième axe, le renforcement des capacités.
Monsieur Lelay, d'abord par rapport aux infrastructures, il y a des entités qui n'ont même pas des bureaux, ils n'ont rien. On a créé, aujourd'hui on est à 26, on a 26 provinces, mais il y a des provinces qui ont même du mal à fonctionner parce qu'il n'y a pas des infrastructures.
Effectivement, je sais que c'est un problème qui se résout au fur et à mesure. Parce que lorsque vous allez dans certaines provinces, vous allez trouver que malgré les difficultés que le pays connaît en termes de budget, mais il y a quand même l'apport de certains partenaires qui nous accompagnent dans ce processus-là et qui font que certaines provinces, ou même nouvelles provinces, sont dotées d'infrastructures qui permettent aux services déjà de fonctionner. Mais ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre du coup. Je vous ai dit que la décentralisation, c'est un processus. Donc nous y allons petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre la chose. Il faut pas que l'on croit que par un coup magique, on peut obtenir des infrastructures en un coup partout ailleurs. Non, on y va progressivement. C'est un problème de planification, de programmation, et de réalisation de ce programme-là, n'est-ce pas?
Il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure que cette décentralisation n'a pas été bien préparée, et puis l'autonomie des provinces est menacée parce que tout, on a l'impression que tout est centralisé à Kinshasa.
Oui, vous savez que je vous ai dit que le processus a un caractère diachronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut du temps. Si nous devons par exemple, comparer notre décentralisation avec celle d'autres pays qui sont déjà très expérimentés, vous allez comprendre que même les vieilles démocraties, même les vieilles décentralisations continuent encore à affronter des problèmes.
Donc, oui, Monsieur Lelay, dernièrement, vous avez effectué un voyage en Allemagne. Vous êtes allé avec la fondation Hans Seidel pour voir comment s'est fait la décentralisation là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer par rapport à la manière dont cela se passe en Allemagne?
Oui, effectivement, notre voyage était inscrit dans le cadre d'échange d'expérience. Et nous sommes allés, effectivement, nous avons observé beaucoup de choses et de bonnes choses. Par exemple, que effectivement, l'Allemagne, c'est un État fédéral, mais qui est composé d'États fédérés qui jouissent de l'autonomie politique et administrative. Et puis, vous allez trouver que là-bas, les élections sont impératives. Et puis sont d'un mode direct, de scrutin direct. Et puis il y a le fait aussi que la gestion de l'État fédéral se base justement sur des indicateurs qui sont la fiscalité et le budget de chaque État fédéré. Donc il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut énumérer. Je crois que le temps ne va pas nous suffire dans cette émission, mais il faut dire que l'Allemagne, c'est un pays fédéral, mais qui est fortement décentralisé. Où vous trouvez les entités territoriales décentralisées qui sont effectivement dans l'action, qui sont impliquées et qui jouissent effectivement de leur autonomie administrative. Et c'est une bonne expérience que nous voulons également appliquer chez nous, mais nous devons comprendre que c'est avec le temps, parce que nous devons apprendre. D'abord, le problème des élections. Nous n'avons pas encore organisé des élections qui soient parfaites. Hein? Vous voyez, il y a toujours des petits problèmes qui interviennent. Bon, c'est dans l'apprentissage et avec le temps, avec l'appropriation, avec l'intériorisation de tous ces principes, qu'on peut effectivement espérer demain décoller notre pays avec notre décentralisation. Mais sinon, Monsieur les journalistes, ce que nous devons retenir, c'est que la décentralisation, c'est déjà une option, comme on dit, une route de non-retour. Donc les pays sont déjà engagés dans ce mode. C'est d'ailleurs la thématique qui semble être aujourd'hui d'actualité dans beaucoup de pays. Donc si nous voulons effectivement concrétiser le credo que le président de la République avait justement annoncé dans son discours d'investiture, où il a dit qu'il faut développer le pays à partir de la base. C'est ça la décentralisation. Donc ce n'est pas du coup, mais petit à petit, en franchissant certaines étapes, on peut y arriver.
Bien. Comment rendre effective la décentralisation à RDC? Nous allons accueillir tout à l'heure notre deuxième invité, M. Willy Mubobo Nzama. Il est député honoraire et président de l'ONGD Écologie Plus. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Nous parlons aujourd'hui de la décentralisation dans l'émission Okapi Service. Nous allons accueillir l'honorable Willy Mubobo Nzama. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Radio Okapi.
Oui, c'est plutôt Jody Kachama qui est à l'antenne. Alors, dites-nous, Monsieur Willy Mubobo, aujourd'hui on parle de la décentralisation. Qu'est-ce qui freine la mise en place effective de cette décentralisation dans notre pays aujourd'hui?
Ce qui freine la mise en place de la décentralisation, c'est la précipitation la non-préparation de cette décentralisation. Nous avons l'habitude de mettre sur papier des textes et par contre, en réalité, sur le terrain, on ne fait pas grand-chose, on ne bouge pas. Donc, on l'a inscrit dans la Constitution. Ailleurs, on ne l'a pas inscrit dans la Constitution. Mais chez nous, nous l'avons inscrit dans la Constitution. Ça signifie que nous devons respecter ce qui a été mis dans la Constitution. Alors, si on l'a mis, on supposait que le législateur de 2006 la Constitution a été votée par référendum avant qu'il y ait les élections de 2006. Donc, les constituants, avant les élections de 2006, avaient estimé, sur quelle magie, je ne sais pas, qu'on devrait mettre en pratique la décentralisation 3 ans après les élections de 2006. Donc ça signifie en 2009. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Les provinces sont restées entières jusqu'en 2015 qu'on a fait des découpages. Ça signifie que c'est toujours le papier, les écrits, mais pas le concret sur le terrain. Donc voilà, pour moi, c'est premièrement ça. Donc on doit essayer
ça
de respecter les textes.
Oui,
on n'est pas prêt, il faut bien étudier avant de mettre les textes en place.
Et pourquoi ça s'est fait dans la précipitation?
Nous sommes spécialistes en précipitation. L'indépendance, pareil. Donc tout, c'est toujours dans la précipitation. Et je pense que aujourd'hui, nous devons regretter pourquoi on a inscrit ça. Et alors que nous n'étions pas prêts financièrement. Parce que c'est les finances qui est le point angulaire de cette situation.
Et aujourd'hui, bon nombre d'entités territoriales décentralisées, disons les provinces, se plaignent par rapport à cette question des rétrocessions. On mobilise les recettes, on envoie à Kinshasa, mais il n'y a pas de rétrocession et ça bloque le développement des provinces.
Tout à fait. C'est ce que j'ai dit, non, c'est les finances qui bloquent. Parce que si vous regardez toujours dans la Constitution, vers l'appendice, vous allez voir que c'est bien réparti. Donc 40% des recettes à caractère national doivent être déjà imputées par les provinces. Donc l'argent des 40%, supposé 1 million de dollars, qu'une province fait entrer par la DGI et autres, des GERA, $400 000 doit rester à la province. Donc, la province n'envoie que $600 000. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours l'exception. On fait l'exception en disant non,
nous avons beaucoup de priorités au niveau du gouvernement central. Alors, envoyez-le tout et nous allons vous rétrocéder. Alors, c'est là le problème. C'est la rétrocession qui peut... Pourquoi rétrocéder? Parce que la Constitution, qui est la loi mère, nous dit que les 40% doivent revenir automatiquement aux provinces. C'est la mauvaise foi du gouvernement central.
Et qu'est-ce que cela a comme conséquence? Les provinces ne se développent pas.
Oui, la conséquence des provinces ne se développe pas. Pourquoi? Parce que les agents qui sont censés récolter l'argent de l'État pour le trésor public se découragent parce qu'ils doivent voir, aussitôt qu'ils avaient récolté pour le gouvernement central, leurs 40% devaient rester et les 40% devaient leur aussi être bien distribués, ainsi que l'investissement par la province. Mais lorsque tout l'argent part à Kinshasa et vous devez attendre des mois pour être rétrocédé. Tout le monde se décourage. Et on amène le fonctionnaire de l'État dans un système de l'administration de prévention. Donc, c'est servir. Et là, on ne sait pas maximiser les effets. Et on ne les encourage même pas. Et donc, chacun maintenant travaille pour que l'argent revienne à sa poche. Donc une partie entre dans sa poche et l'autre partie part dans la caisse du trésor public. Et ça ne peut pas avancer l'État comme les provinces.
Bien. Monsieur Lele Perrot, vous êtes secrétaire général à la décentralisation. Par rapport à cette question des rétrocessions, quelle est la solution envisagée?
Comme a dit mon prédécesseur, bon, cela est consacré dans la Constitution, c'est que les 40% sont retenus à la source, c'est-à-dire dans la province qui produit. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette disposition n'est pas démise? J'ai un auditeur parler de la conférence de gouverneurs. C'est une instance de concertation entre le pouvoir central et le pouvoir des provinces. C'est lors d'une conférence de gouverneurs qu'il était décidé que compte tenu de l'inexpérience, compte tenu du déséquilibre de production entre les provinces, il aurait fallu mettre en place une disposition transitoire. Ce n'est que transitoire, cette rétrocession-là. Donc, pour permettre justement aux provinces qui ne produisent pas comme les autres à avoir pratiquement le moyen de leur survie. Donc, c'est pourquoi on a opté pour la rétrocession. Mais cela n'est pas définitif parce que c'est une disposition constitutionnelle. Encore qu'il faut qu'on arrive peut-être à revoir cette disposition, là, on peut échanger, mais sinon, c'est une disposition qui reste, qui devra être coûte que coûte appliquée d'une manière ou d'une autre. Alors, aujourd'hui, vous avez...
Oui, monsieur Lélé.
Oui. Oui, je vous écoute.
Oui, allez-y.
Oui, alors, je disais que pour pallier à tout cela, le gouvernement a mis en place la Caisse nationale de péréquation. Donc c'est aussi une institution qui vient pour renforcer justement la solidarité nationale et corriger le déséquilibre dans le développement national. Oui. Donc je dis que le pouvoir central qui est en train d'appliquer la décentralisation, il va avec méthode. Donc le gouvernement ne peut pas vouloir le développement d'une province et en même temps vouloir la pauvreté dans une autre. Donc au niveau national, on a conçu ce mécanisme avec la conférence de gouverneurs, c'est ainsi qu'on avait mis en place la rétrocession. Mais est-il que qu'est-ce qui se passe avec cette rétrocession? Là, c'est maintenant un problème de répartition,
oui.
Un problème de gestion des finances publiques.
Donc tout cela devra se résoudre parce que ce sont des problèmes, des questions qui sont tout le temps discutées au niveau du gouvernement.
Bien, monsieur honorable Willy Moubobo, le gouvernement, on vient de l'apprendre, avait mis en place une caisse nationale de péréquation pour favoriser le développement des provinces faibles, aider les provinces faibles aussi à se développer. Quel était l'état des lieux vous faites aujourd'hui de cette caisse nationale de péréquation?
Bon, merci une fois de plus. La Caisse nationale de péréquation a été prévue dès, même dans la Constitution, c'est prévu. C'est toujours sa mise en place qui est toujours tardive. Et ça fait des années que nous attendons cette Caisse de péréquation. Et la loi devrait être votée, et là, vous allez m'excuser, et j'avais entendu qu'il y avait une loi sur la Caisse de péréquation qui était au niveau du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Et en ce jour, je ne sais pas si cette loi a été déjà mise en place, ou votée, ou et puis... légiféré par les députés et puis promulgué par les chefs de l'État. Ça, je n'en sais pas. Mais une chose est vraie, que cette caisse devrait être mise en place depuis longtemps. Et c'est toujours la volonté du gouvernement central, la mauvaise foi du gouvernement central de ne pas la mettre. Et ça a été décidé depuis longtemps. Si cette caisse, s'il y avait on respectait les règles, aujourd'hui, la décentralisation aurait eu des ailes. Je pense que Et tout est lié par l'égocentrisme du gouvernement central.
Alors, honorable Willy, quelles provinces sur les 26 provinces, lesquelles ont pu se développer après la mise en place de cette la décentralisation?
Oui, les images qu'on nous montre nous prouvent que les lois là-bas est en train de bien évoluer. Peut-être pour la simple raison que le gouverneur Mouyège c'était lui en quelque sorte le parrain, ou si pas le parrain, mais c'est pendant qu'il était à l'intérieur qu'il a insisté sur la décentralisation. D'ailleurs, il y a pas mal de documents qui ont été signés par lui. Alors, les informations que nous avons, c'est les lois là-bas qui est en avance par rapport aux autres. Kinshasa, le problème de Kinshasa, c'est la confusion entre le gouvernement central, les attributions du gouvernement central et celles de la province. Là, on ne sait pas est-ce que la province, le gouvernement provincial bouge ou ne bouge pas. Le fait d'être capitale, on ne sait pas qui bouge. On trouve des ouvrages ci et là. Est-ce que c'est le gouvernement provincial? Est-ce que ça, c'est l'attribution du gouvernement provincial ou du gouvernement central? Mais une chose est vraie, dans la ville de Kinshasa, si l'assainissement appartient à la ville, nous trouvons que ça ne bouge pas.
Alors, vous dites que parmi les provinces, il n'y a que le Lualaba. Alors, ce développement du Lualaba se situe à quel niveau? C'est au niveau est-ce qu'on peut dire que le niveau de vie aujourd'hui des gens, des habitants du Lualaba s'est amélioré nettement du point de vue, par exemple, la santé, l'éducation et autres?
Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est l'impression que j'ai, moi, personnellement. Et taper du doigt, non. Mais l'impression que j'ai, c'est celle-là. Et une chose, c'est vrai que, par exemple, sur le plan sportif, je vois, il y a des équipes, parce que l'économie va aussi avec le sport. Les équipes du Lualaba, ils viennent de comme ça, il y a deux équipes, Blessing et puis Al-Simba, qui est au niveau de l'UNAFOOT et qui fait aussi une difficulté aux grandes équipes. Donc, à partir de là, on peut aussi tirer des leçons que dans cette province, il y a quelque chose qui bouge. Mais sur le plan sanitaire, peut-être que tu m'as posé la question là, je ne vais pas dire qu'est-ce qui, avec beaucoup de détails, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais les images que nous voyons nous prouvent que parmi les provinces démembrées, les lois là-bas sont en train de pousser par rapport, par exemple, au Katanga, par rapport, par exemple, au Pilou, au Kwango. Et Maïndombe et le Congo central qui était en avance, on a vu que les ports sont pratiquement n'a plus d'activité comme avant. On voit le train qui allait, qui faisait Kinshasa Matadi, on ne voit plus. Je sais bien sûr que ça fait partie des attributions du gouvernement central. Mais il faut, c'est vrai que ça favoriserait la province qui était déjà en émergence.
Bien, un coucou à tous les auditeurs qui sont à Kolwezi et à Lisano. Vous êtes à Manika Adilala. Vous pouvez participer à cette émission. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le loi là-bas est développé? Appelez au 081-890-63-94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. On va accueillir un auditeur de Kinshasa, Gabriel Nkombe. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité et bonjour aussi aux auditeurs de la fréquence de la paix.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire Gabriel par rapport à la décentralisation?
À mon avis, je pense que pour soulever les problèmes du développement d'un pays et ses entités territoriales décentralisées, il ne suffit pas d'analyser le seul secteur économique. En effet, la politique, la sociologie, les droits exercent également une profonde influence sur les possibilités du développement. En RDC, comme dans les entités territoriales décentralisées, un flou perpétuel entourait la compréhension des phénomènes politiques, sociaux et juridiques, en même que la notion de l'État, de la société civile, de la société politique et de la démocratie du développement. La RDC est confrontée à plusieurs aux autres problèmes tels que l'égoïsme des dirigeants politiques, la corruption.
Gabriel Nkombe, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la décentralisation soit effective?
Pour que les états soient effectifs, on doit avoir le politiciens qui viennent au pouvoir pour travailler à l'intérêt commun et non l'intérêt privé, aux intérêts privés. Car nous avons des problèmes de l'égoïsme de nos dirigeants. Nos dirigeants viennent au pouvoir que pour leur intérêt et non pour l'intérêt général. Merci, M. Choudi.
Bien, M. Lélé, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet auditeur?
Oui, ce que je voulais dire, d'abord pour préciser par rapport à ce que mon prédécesseur venait de dire, donc je voulais seulement informer le public que la Caisse nationale de péréquation est déjà effective dans la mesure où il existe la loi organique numéro 028 de 2018, du 8 novembre 2016, je vous l'ai dit, qui met en place la Caisse nationale de péréquation. Il y a déjà le conseil d'administration, il y a également la direction générale de la Caisse nationale de péréquation. Donc, elle est en train de se mettre en place. Et il y a aussi l'appui des partenaires pour son opérationnalisation. Donc, maintenant, en ce qui concerne la préoccupation de l'auditeur de tout à l'heure, eh ben, il faut comprendre que, effectivement, il ne faut pas seulement parler de ce qu'il dit, oui. Ce qu'il dit là est vrai. Qu'est-ce qu'il faut pour que la décentralisation devienne effective? Nous devons d'abord noter que la décentralisation a déjà démarré et qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de dire que la décentralisation a démarré. Néanmoins, il y a des problèmes qu'il faut encore résoudre. Le problème, par exemple, le problème des élections à la base. Parce que pour que la décentralisation soit vraiment bien comprise et fasse l'objet d'une appropriation effective, il faut les élections à la base. Je vous ai parlé du cas de l'Allemagne. En Allemagne, les élections se réalisent à tous les niveaux des subdivisions territoriales, allant des élections municipales, locales, des élections des districts, des arrondissements, des élections législatives, jusqu'aux élections européennes. Donc vous comprenez que là, le système électoral est déjà effectif. Donc si chez nous ici, nous résolvons ce problème des élections à la base et au niveau provincial comme il y en a déjà, vous allez voir que la décentralisation va effectivement prendre la vitesse de croisière. Donc, mais sinon, il y a encore des problèmes à résoudre. L'option a déjà été levée dans la Constitution. Les institutions sont là. Le cadre légal est là. Et il y a toute une stratégie de mise en œuvre de la décentralisation. Donc, le processus est en marche. D'ailleurs, je dois vous rappeler que en décembre 2019, le gouvernement national, à travers le ministère de la décentralisation,
avait organisé le deuxième forum national sur la décentralisation, où on a fait l'état des lieux. On a noté qu'il y a eu des avancées et il y a des défis à relever. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre la chose. Donc, nous
sommes il semble que les défis sont énormes, plus que les avancées. C'est des avancées pas très très significatives.
Effectivement, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que tout à l'heure, il y a un auditeur qui a parlé de l'aspect politique. Vous savez, lorsque la politique de notre pays connaît encore un peu des problèmes tels que nous sommes là, vous savez dans quel contexte nous sommes. Donc vous voyez que ça impacte également sur la gestion de l'État, parce que la décentralisation implique la gestion de l'État. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de défis que d'avancées. Mais nous n'allons pas désarmer. Mais nous faisons un appel.
Mais monsieur Lele, ça fait près de 15 ans depuis que cette décentralisation a été lancée. On ne devait pas en être là aujourd'hui.
Bon, on ne devait pas en être là aujourd'hui. Je vous ai parlé du deuxième forum national sur la décentralisation qui s'est tenu en 2019. Eh bien, il y a eu des indicateurs sur lesquels on a fait l'évaluation. Évidemment, nous reconnaissons qu'il y a autant de problèmes, plus de défis à résoudre que d'avancer. Mais c'est comme je l'ai dit maintenant, nous en appelons justement à la volonté politique et puis à l'implication de tous les acteurs pour qu'on arrive à résoudre les défis par rapport aux élections, les défis par rapport à la décentralisation financière, les défis par rapport au renforcement des capacités des acteurs qui sont impliqués dans le processus, les défis par rapport au découpage lui-même. Il faut résoudre les problèmes des limites, des provinces, des entités territoriales décentralisées. Il y a autant de problèmes qu'il faut résoudre. Mais ce que nous notons, c'est que le président de la République a déjà pris cela comme l'une de ses priorités, donc la décentralisation.
Bien. À la base. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Lele Perrot. Je rappelle que vous êtes secrétaire général à la décentralisation. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
C'est à moi de vous remercier.
Bien. On va poursuivre avec l'honorable Willy Mubobo Nzama. Je rappelle que vous êtes député honoraire et président de l'ONGD Écologie Plus. Vous avez suivi, monsieur Lele a dit qu'il faut organiser les élections à la base. C'est parmi les éléments prioritaires pour que la décentralisation se porte bien. Honorable Willy.
Je pense que l'ONGD Écologie a fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de tribunes d'expression populaire là-dessus, sur les élections locales. Les élections locales sont primordiales et c'est la base de la démocratie. On devrait commencer par là. On a raté les trains. C'est comme ça que j'ai dit, on fait tout dans la précipitation. On fait tout toujours pour satisfaire les appétits d'un chacun ou de l'autre. Donc ça ne va pas. Si on doit commencer normalement, on doit commencer par les élections locales. Impérativement, on en a besoin. Et ces élections donnent confiance à la population parce que ce sont les acteurs qui vivent avec eux qui vont diriger les États-Unis. Et en ce moment-là, tout sera... C'est vraiment la base de la démocratie. La démocratie commence par la base. Et ce sont les élections locales qui sont le cœur même de la démocratie. Et nous, on commence à la tête. On commence à la tête et on a toujours des difficultés. Ce qui est vraiment, c'est ce que nous avons vu en Allemagne. Donc, et on doit aussi remettre en question le mot République démocratique du Congo. Est-ce que nous voulons une république dictatoriale ou une république démocratique? C'est depuis le père de l'indépendance qu'on a donné ce nom-là. Et la démocratie a ses règles qu'il faut respecter. Est-ce que nous respectons les règles de la démocratie? Non.
Qu'est-ce qu'il faut pour organiser les élections à la base? Pourquoi on n'arrive pas à les organiser?
Mais c'est toujours ça. Et, tu vois, un auditeur a parlé de politique et juridique et comme ça. Et moi, je m'appesantis plus sur les aspects financiers. Mais malheureusement, chez nous, c'est toujours la politique qui domine. Donc, le politicien mal intentionnés ne veulent pas que le peuple puisse décider de leurs dirigeants. Il y a un problème.
Bien.
On doit moraliser la politique. La plupart des politiciens congolais ne pensent qu'à leur ventre et ne pensent pas au ventre de la population, parce que si vraiment les gens sont animés de bonne foi, ils doivent commencer par là.
D'accord, honorable, pour terminer, on retient que pour rendre effective la décentralisation, il faut les organisations à la base, au niveau local, et ensuite les moyens donnés aux entités territoriales décentralisées, les moyens pour se développer.
Oui, c'est ça. Il faut donner les moyens aux ETD pour se développer. Alors, les moyens viennent d'où ? Du travail. Il faut investir. Le pays, le gouvernement central doit aussi investir dans les provinces. Autrefois, moi j'ai eu la chance de vivre à l'intérieur, il y avait des usines ici, il y avait des usines dans les Kwilu, partout les usines d'huile de palme. Et ces usines sont venues quand ? C'est avec les Belges. Et est-ce qu'il y a une politique agissant sur le plan agricole pour que les industriels viennent ? On doit revenir. On verra qu'il y a des lois qui ne sont pas adaptées à l'heure actuelle. Par exemple, la loi foncière et la code agricole. La loi foncière devrait normalement dire, par exemple, que le contrat d'antidote doit être de 50 ans ou plus. Quelqu'un qui investit dans le secteur agricole, il doit investir avec un long durée. On ne doit pas lui mettre 27
oui,
ans.
Oui, honorable, est-ce que chaque entité territoriale décentralisée a son plan de développement?
Ah, ça c'est une belle question que vous posez. Nous sommes là de savoir chaque entité territoriale décentralisée a son plan de développement. Ça c'est la bonne question.
Bien, on aura l'occasion d'y revenir prochainement. On n'a plus de temps. Honorable Willy Mboubo, je rappelle que vous êtes député honoraire et président de l'ONGD Écologie Plus. Merci et excellente journée.
Merci. Merci, studio.
Jamais baisser les bras.
Mon père avait raison.
La vie est un combat.
Ma maman avait raison.
Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont les pots de banane sur la route. Humiliations et tribulations, funeste équation. Les tentations et les provocations sont les pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation.
Mon père avait raison.
La vie est un combat.
Ma maman avait raison.
Il ne faut jamais, jamais baisser les bras.
Mon père avait raison.
La vie est un combat.
Ma maman avait raison.
Il ne faut jamais, jamais. Sans lumière, les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans sauver les enfants.
Mon père avait raison.
Mon père avait raison. Sarajevo à Mogadiscio.